Marguerite Caton a rencontré l'économiste Kako Nubuko qui vient de publier chez Odile Jacob l'urgence africaine sous titre « Changeons le modèle de croissance ». Kako Nubuko est doyen de la faculté de sciences économiques de l'université de Lomé au Togo et chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, le CIRAD. Et pour lui, l'urgence du continent africain aujourd'hui, c'est de sortir enfin de la pauvreté.
L'urgence africaine, comme je le dis souvent, c'est une urgence planétaire. Parce que c'est la première fois depuis très longtemps que ce qui se passe en Afrique peut avoir des répercussions notables sur le reste du monde en termes de stabilité géopolitique. Et vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe en Afrique ? L'Afrique se transforme, mais pas suffisamment vite ni suffisamment bien pour répondre aux défis notamment de sa jeunesse, qui cherche du travail.
Vous qui avez exercé de nombreuses responsabilités, vous avez été, je le rappelle, ministre chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques au Togo. Vous êtes très sévère dans votre ouvrage à l'égard des élites, aussi bien des élites africaines que des élites internationales. Que leur reprochez-vous exactement ?
Il s'agit de reconnaître simplement que les élites africaines, dans leur construction historique, ont été formées pour servir l'Occident. La première école qui a été créée en Afrique par Federbe au Sénégal en 1905 s'appelait l'école des otages. Ensuite, ça s'appelait l'école des fils de chefs. Ça veut dire que nos élites, et je le dis dans l'ouvrage, ne sont pas fabriquées par les sociétés africaines. Elles sont fabriquées pour cocher les bonnes cases de la bienséance internationale. Et du coup, elles sont pro-FMI, pro-Banque mondiale et ne s'intéresse pas beaucoup à ce que j'appelle l'intérêt général.
Bienséance internationale, dans votre ouvrage, vous le nommez, c'est le néolibéralisme.
Exactement. Cette façon de dire que ce qui importe, ce sont les équilibres macroéconomiques de court terme, le budget et la monnaie, et ne pas se rendre compte que pour une population dont le taux de croissance est de 2,7% par an, donc qui double tous les 25 ans, il y a un enjeu majeur, c'est celui de la création d'activités. Et donc, entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il y a trop de naissances en Afrique, je dis que la démographie africaine ne peut être une chance pour l'Afrique que si en face, nous avons les politiques publiques idoines.
Pourquoi l'extrême ouverture des économies africaines est-elle si problématique à vos yeux ?
C'est que l'Afrique est une terre de prédation pour le reste du monde. À l'heure actuelle, on voit bien que toutes les terres sont convoitées notamment par les nouveaux pays riches, la Chine, l'Indonésie, la Malaisie. Mais en même temps, les surplus agricoles européens se déversent en Afrique. Ce qui fait que vous n'avez plus d'incitation à produire localement pour nos producteurs. Or, 70% de la population africaine est rurale. Ce qui fait que si ces gens n'ont pas accès au travail, ils vont se déverser dans les villes africaines, qui concentre tout ce que nous ne voulons pas, c'est-à-dire la fragilité, l'extrême vulnérabilité. C'est pour ça que je dis que nous devons changer de modèle de croissance, c'est-à-dire faire en sorte que les gens aient des activités là où ils vivent et qu'ils puissent accéder à ce que j'appelle une prospérité partagée.
Quelles sont les pistes ?
Les pistes, elles sont très simples. Il faut produire. Il faut produire, et dans l'ouvrage, je propose trois choses. Il faut augmenter la productivité agricole. Ensuite, le renforcement institutionnel, les organisations paysannes, de vraies politiques agricoles qui remettent au cœur la question de la protection. Vous savez, quand un producteur américain est protégé 820 fois plus en termes de soutien qu'un producteur tanzanien, c'est-à-dire que le producteur américain, chaque année, il a 37 000 $ que lui verse son gouvernement. Et le tanzanien, il a 46 $. Donc 820 fois moins, que vous les mettez dans le même marché, mais le Tanzanien, il disparaît. Ou j'ai envie de dire, il fuit la Tanzanie pour aller s'installer ailleurs. Donc, on ne peut pas mettre dans le même marché des gens qui ont de tels écarts de productivité.
C'est à du protectionnisme que vous appelez l'Afrique ?
Oui, du protectionnisme éducateur. Il faut qu'on développe nos filières, qu'on les renforce, et qu'on ouvre ces filières au fur et à mesure qu'elles sont capables de supporter la concurrence internationale. Moi, j'appelle ça la capacité à comprendre que le développement, c'est d'abord utiliser ses ressources. Or, l'Afrique n'en manque pas, la terre, le travail, les capitaux, nous perdons 100 milliards de dollars par an de fuite de capitaux pour mettre en œuvre ce que j'appelle finalement cette capacité de s'inscrire harmonieusement dans la mondialisation. Donc il ne s'agit pas de se protéger vis-à-vis du reste du monde, il s'agit de préparer une entrée progressive dans la mondialisation.
Je reviens sur la question des instruments techniques de cette insertion harmonieuse dans la globalisation. Vous dénoncez assez sévèrement le franc CFA et cette perte de souveraineté monétaire.
Oui, parce qu'il y a deux enjeux majeurs quand vous avez une monnaie. Le premier, c'est financer votre économie. Or, dans la zone CFA, les taux d'intérêt que les banques donnent, c'est deux chiffres, 15, 16, 17%. Ce n'est juste pas possible.
Bien supérieur à la zone euro.
Bien sûr, où on emprunte à 1%. Et deuxième enjeu, la compétitivité. Le CFA est rattaché à l'euro, de manière rigide. L'euro qui est une des monnaies les plus fortes au monde. Et nous qui avons les économies les plus faibles du monde, nous devons utiliser une monnaie comme le CFA qui est rattaché à l'euro. Vous voyez qu'il y a un hiatus. Si on veut être compétitif à l'export, il nous faut une monnaie qui soit en phase avec les fondamentaux des économies africaines.
Ce qui implique, étant donné cet environnement mondialisé, globalisé, de repenser les relations entre le continent africain, certains nouveaux partenaires comme la Chine, certains anciens partenaires comme les puissances ex-coloniales. Comment on repense, on refonde ces relations?
Mais moi, j'ai proposé un indicateur très simple, c'est de comparer le nombre de déplacements que font les chefs d'État africains dans le reste du monde et ce qu'ils font par rapport à leur propre pays. Nos chefs d'État se baladent. Il y a tout le temps des sommets. Chine-Afrique, Inde-Afrique, Turquie-Afrique, Israël-Afrique, France-Afrique. Ce qu'on leur demande, c'est de construire une prospérité qui se fonde sur les besoins des populations. Et ce que nous attendons du reste du monde, c'est de nous accompagner pour ça. Il faut que l'Occident se rende compte qu'il a une responsabilité historique vis-à-vis de l'Afrique. Et cette responsabilité historique, elle est d'ordre éthique. On ne peut pas avoir un monde partagé s'il y a juste une toute petite partie de ce monde qui a accès aux richesses. C'est pour ça que je dis que c'est la première fois dans l'histoire que ce qui se passe en Afrique peut avoir un impact sur la stabilité du monde en termes de terrorisme, en termes d'écologie, en termes même de fiscalité. Ce que nous attendons du reste du monde, ce n'est pas de la pitié, c'est un intérêt bien compris. Parce que si nous ne le faisons pas par principe, faisons-le par intérêt. Nous serons 2 milliards en 2050. Il n'y a que 300 kilomètres de côte qui séparent la Libye de l'Italie. Je pense qu'une fois qu'on a dit ça, on voit ce qu'il y a à faire. Pour vous et pour nous.
Merci beaucoup, Kakonubuko. Je rappelle le titre de votre ouvrage paru cette semaine chez Odile Jacob, L'urgence africaine, changeons le modèle de croissance.